Non, c'est bien. Bien, bonjour. Donc, je m'appelle William Blanc. Je suis un des auteurs du livre que vous avez sous les yeux, qui s'appelle donc Charles Martel, de l'histoire au mythe identitaire. Et vous avez à côté de moi mon complice, mon numéro 2, mon Robin, donc Christophe Naudin. Ça commence bien. Ce qu'on va faire, c'est ce qu'on propose de faire, c'est de faire une présentation du bouquin pendant une vingtaine de minutes. Et après, vu qu'on n'est pas trop des partisans du cours magistral, de commencer avec des séries de questions-réponses, parce que bon, voilà, comme ça permettra de créer un débat assez rapidement. Alors, très rapidement. D'ailleurs, tu veux comment? Oh, j'y vais, d'accord, moi j'y vais. Donc en fait, on a écrit, donc on est tous les deux historiens. Christophe est prof de collège et moi je suis en fait plus spécialiste de la vulgarisation, notamment sur le Moyen Âge. Et on a décidé d'écrire ce bouquin à un moment précis, c'est-à-dire en décembre 2013, où on a vu en fait sur les kiosques la une d'un journal que je suis sûr que vous portez toutes et tous dans votre cœur, qui s'appelle Valeurs Actuelles. Sur ce livre, on a mis la couverture de toute façon dans le bouquin. Sur ce magazine, il y avait déjà, hein, parce que ça a encore recommencé cette année, il y avait déjà une polémique par rapport au programme scolaire d'histoire. Et la théorie que défendait Valeurs Actuelles, c'est-à-dire que l'identité française était menacée parce qu'on n'enseignait plus à l'école les grands héros de l'histoire de France. Et parmi ces grands héros qu'il citait, il y avait évidemment Saint-Louis, Napoléon, Jeanne d'Arc, évidemment, et Charles Martel. Et en fait, avec Christophe, on était déjà engagé depuis plus d'un an et demi sur une autre polémique, déjà avec des vulgarisateurs, entre gros guillemets, d'histoire, notamment Laurent Deutsch. On a écrit un bouquin avec Aurore Chéry par rapport à ça qui s'appelle Les Historiens de Garde. Et ça nous a fait un peu tiquer, donc on a voulu répondre par rapport à ça, ou en tout cas essayer de voir si Charles Martel était bel et bien enseigné depuis la Troisième République, comme le prétendaient les journalistes de Valeurs Actuelles, à l'école. Et en fait, à notre grande surprise, on s'est aperçu que ce n'était pas le cas. On s'est aperçu notamment en creusant dans des livres comme Le Petit Lavis, hein, je ne sais pas si vous connaissez Le Petit Lavis, c'est donc un manuel d'histoire qui était énormément répandu sous la Troisième République, qui s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires, qui était diffusé, qui était lu, relu par des générations d'écoliers. Et dans Le Petit Lavis, qui est le manuel de base de cours élémentaire, si vous le consultez en ligne, parce qu'il est consultable en ligne sur le site Gallica de la BNF, eh bien on s'aperçoit que Le Petit Lavis va parler de Vercingétorix, de Clovis, de Jeanne d'Arc, de Saint-Louis, mais pas de Charles Martel. Alors déjà, ça nous a fait un peu tiquer. Et donc, on s'est décidé à partir de là de creuser le dossier, de tirer un peu le fil de la pelote, et puis on a abouti un an et demi plus tard à un bouquin de 300 pages qui parle à la fois de l'histoire de Charles Martel et de la bataille de Poitiers, hein, que vous connaissez sans doute. Donc, pour la mettre dans son contexte, c'est une première chose. Et de deux, on a fait une autre partie du livre sur les mémoires de Charles Martel, les mémoires de la bataille de Poitiers et comment s'est créé le mythe de la bataille de Poitiers. Alors, quand on a commencé le bouquin, on s'est dit, tu me dis quand tu vas intervenir parce que moi je suis parti, moi. Il a l'habitude, le pauvre, hein, il a l'habitude. Quand on a commencé le bouquin, on s'est dit que la bataille de Poitiers était un mythe récurrent qui était utilisé par l'extrême droite, notamment. Pour nous, c'était une évidence. Hein, que dans, par exemple, le Front National sortait régulièrement des articles, des textes célébrant Charles Martel arrêtant donc l'invasion, et ça, Christophe y reviendra dessus après, l'invasion entre guillemets arabe en 732. Or, à notre grande surprise, on s'est aperçu que ce n'était pas le cas. Certes, à la fin du XIXe siècle, vous avez un auteur d'extrême droite qui est un des fondateurs de l'antisémitisme moderne qui s'appelle Édouard Drumont. Qui écrit un livre qui s'appelle en 1885, un livre extrêmement poétique qui s'appelle La France juive, voilà. Et en fait, il parle de la bataille de Poitiers en disant que c'est la première fois qu'il y a eu une tentative d'invasion sémitique en France, hein, et quelque part qu'aujourd'hui, donc à la fin du 19e siècle, il y avait une seconde tentative, mais cette fois plus souterraine, d'invasion juive en France, hein. Et quelque part, il fallait reprendre le flambeau de Charles Martel pour arrêter à nouveau l'invasion juive. Ça, c'était au XIXe siècle. Mais en fait, quand on analyse l'histoire et le discours de l'extrême droite tout au long du XXe siècle, jusque dans les années 80-90, eh bien, la bataille de Poitiers est quelque chose de très peu cité dans l'extrême droite. On a même trouvé des textes de l'extrême droite, y compris de gens extrêmement connus, qui en fin de compte disent eux-mêmes que la bataille de Poitiers était un événement extrêmement secondaire et qu'en fin de compte c'était une espèce de mythe qui avait été créé par l'Église au Moyen Âge. D'accord? Donc en fait on voit que au sein de même au sein de l'extrême droite, cette espèce de mythe de la bataille de Poitiers n'existait pas jusqu'à une date récente. Ce qui s'est passé, c'est que à la fin au milieu, non, au début des années 90, vous avez un texte qui est aujourd'hui très connu, malheureusement, un texte très connu qui s'appelle de Samuel Huntington, qui était à la base un article qui est devenu un bouquin, qui s'appelle Le choc des civilisations. Et donc la théorie de ce professeur d'Harvard, qui est un professeur de relations internationales, c'est de dire que l'histoire, à part au XXe siècle, où en fait l'histoire s'est résumée à un choc entre idéologie totalitaire et démocratie, c'est ce qu'il dit, sa théorie, eh bien l'histoire depuis le début de l'humanité s'écrit à partir d'un choc de civilisation, les civilisations étant des blocs qui n'ont pas changé depuis quasiment le début de l'histoire de l'humanité. Et Huntington, il est obsédé par le choc entre ce qu'il appelle l'Occident, c'est-à-dire l'Europe et les États-Unis, et l'Orient, qu'il résume en fait, hein, quand on lit bien les textes, hein, qu'il résume en fait à l'islam. Hein. Pour lui, l'Orient, l'islam, c'est la même chose, ce qui est évidemment beaucoup plus compliqué. Ça, ce texte-là date de 93. Et en fait, il va infuser, notamment dans l'extrême droite, à partir de la fin des années 90. Pourquoi? Parce que pendant très longtemps, encore une fois, même dans les années 80-90, l'extrême droite est fascinée, y compris enfin, par les régimes nationalistes arabes, comme les régimes baathistes, avec qui ils partagent de nombreuses valeurs. Pour eux, c'est des régimes nationalistes autoritaires, donc pour eux, c'est des modèles. Et aussi, vous avez des textes d'extrême droite qui sont fascinés, enfin, qui affirment leur fascination pour l'islamisme. Pour eux, la révolution iranienne de Khomeini, quand on lit les textes du GRES, alors je ne sais pas si vous connaissez le GRES, c'est le groupement de recherche et d'études sur la civilisation européenne, donc c'est en fait la tendance un peu, comment dire, intellectuelle de l'extrême droite, hein, néo-païenne, hein, de l'extrême droite, et eux disent que quelque part la révolution islamiste en Iran, c'est une révolution identitaire, et donc pour eux, c'est un exemple. Et vous voyez, quand on a ce discours-là, évidemment, on ne peut pas prendre en exemple historique Charles Martel, qui est censé avoir arrêté une invasion musulmane. Voilà. Et donc, pendant les années 80-90, l'extrême droite laisse vraiment de côté cette idée-là. Hein. Pourquoi ils sont fascinés comme ça par les régimes arabes, par les régimes islamistes? Parce qu'en fait, quand on lit bien les textes de l'extrême droite à cette époque-là, leur principal ennemi, hein, c'est d'un côté le bloc soviétique, l'URSS, hein, c'est les communistes, le communisme, ils sont foncièrement ce qui va cimenter l'extrême droite de l'après-guerre jusque dans les années 90, c'est l'anticommunisme. Et aussi, ce qui les cimente, c'est l'anti-américanisme. Hein. L'extrême droite, notamment française, déteste littéralement les États-Unis. Pour eux, c'est la source de tous les maux. Et quelque part, ils disent clairement qu'il faut une alliance entre l'Europe enracinée et l'Orient enraciné, encore une fois, je reprends leur terme, pour lutter contre le mondialisme américain. Évidemment, quand ils parlent de mondialisme américain, ils ciblent évidemment les Juifs, hein, là, pour eux qui sont derrière tout ça. Donc, encore une fois, avec un discours comme ça, pas possible de reprendre comme exemple historique la bataille de Poitiers, hein, comme modèle historique, la bataille de Poitiers. Or, à la fin des années 90, à partir de la guerre du Kosovo, où en fait les États-Unis se trouvent engagés du côté des rebelles kosovars contre les Serbes, eh bien l'extrême droite, à partir de sa frange la plus extrême, c'est-à-dire vraiment presque la droite du GRES, hein, notamment des gens qui s'appellent Guillaume, quelqu'un qui s'appelle Guillaume Fay, qui est quelqu'un de enfin, clairement néo-nazi, hein. Eh bien, l'extrême droite va virer de bord par rapport à l'Orient et par rapport à l'islam. Et c'est uniquement à partir de ce moment-là que va se développer au sein de l'extrême droite un discours islamophobe. Et dans ces conditions-là, pour le coup, la bataille de Poitiers va devenir un élément qui va être central, d'accord, dans la mémoire politique de l'extrême droite. Tout le discours, à partir de ce moment-là, va être de dire, exactement comme disait Drumont à la fin du XIXe siècle, va être de dire l'islam a toujours voulu attaquer l'Occident chrétien. La preuve, ils ont attaqué une première fois à Poitiers, ils ont été défaits par Charles Martel à Poitiers. Maintenant, ils reviennent, mais de manière souterraine. Et c'est à partir de ce moment-là que se développe, notamment au sein de l'extrême droite, le concept qui aujourd'hui est repris par des gens comme Éric Zemmour, et même à demi-mot, mais quasiment par Michel Onfray, en l'occurrence, hein, eh bien, se développe ce concept de grand remplacement. Hein. Nous serions, d'accord, en train, enfin nous, là encore une fois, je reprends le discours de l'extrême droite, hein, donc les Français de souche, avec toujours des guillemets, seraient en train d'être remplacés par une armée d'invasion souterraine. Hein. Et ce grand remplacement serait doublé par un grand effacement, hein, qui serait mené notamment par les professeurs d'école qui seraient des alliés objectifs de l'islam, hein, ou des islamistes, qui effaceraient peu à peu la mémoire et l'histoire des Français, et notamment le souvenir des grands héros de l'histoire. Et c'est pour ça, selon l'extrême droite, que les professeurs tenteraient d'effacer, alors encore une fois c'est faux, hein, quand on regarde les anciens programmes, c'est pas le cas, hein, hein, mais qu'on tenterait d'effacer donc le souvenir de Charles Martel. Et c'est uniquement depuis 15 ans que vous avez ce discours qui s'est développé. Hein. Donc vous voyez, c'est extrêmement nouveau, hein, et ça nous interpelle, nous en tant qu'historiens, pour essayer de comprendre pourquoi vous avez ce développement de ce discours, et on a essayé de comprendre un peu aussi ce qui a pu se passer, d'accord, justement à la bataille de Poitiers en 732, quelle est la réalité des faits à ce moment-là.
Alors, bonjour, donc Christophe. Juste une précision d'abord. Ce que William a parfaitement résumé là sur l'extrême droite, c'est vraiment, en fait, c'est la fin du bouquin. On a commencé par là pour notre démarche, mais on a terminé par là dans le livre. Et ce qu'on a insisté sur deux choses, c'est donc les deux parties du bouquin, la partie histoire et la partie historiographie. Donc là, je vais résumer rapidement la partie histoire, ce qu'on a voulu montrer et ce qu'on a montré. Et William peut-être reviendra sur deux, trois détails, par exemple sur le rapport à l'Église. Et, mais il faut bien comprendre que justement, comme c'est très récent cette récupération, mine de rien, cette récupération de Charles Martel, de la bataille de Poitiers, par l'extrême droite, ça ne prend pas une grande partie du bouquin. Mais c'est très important de comprendre comment on en est arrivé là et comment c'est lié à ce qu'on appelle dans le livre la décennie islamophobe. Et on peut parier que dans les mois, dans les années à venir, jusqu'à 2017, Charles Martel, l'extrême droite, va en parler de plus en plus. Et alors, juste, j'en profite, le 7 juin, vous avez une journée Charles Martel organisée par l'extrême droite, pas par le FN. Mais pas directement par le FN, mais par l'extrême droite à Poitiers, en même temps que le congrès du PS, ce qui évidemment n'a rien d'un hasard. Et vous avez des petites offensives comme ça. Alors, ponctuellement, vous avez Charles Martel, vous avez Jean-Marie Le Pen qui se réclame de Charles Martel après les événements de janvier, par exemple, qui dit « Je suis Charlie Martel, je ne suis pas Charlie ». Voilà. Des petits détails comme ça, mais le FN officiel, on va dire, n'a pas encore vraiment repris le personnage, mais vu comment ça se passe au sein de l'extrême droite, on peut penser que ça va bientôt arriver, petit à petit, vu surtout le contexte actuel. Alors juste, je vais vous résumer en quelques mots ce qu'on montre dans la partie histoire. Donc là, on a fait de l'histoire, on est parti des travaux existants sur la bataille et sur Charles Martel, et on est revenu aux sources, comme font les historiens. On n'a pas voulu partir de... On a trouvé ça plus... personnellement, j'ai trouvé ça plus logique et plus intéressant de un peu de se décentrer par rapport à l'ethnocentrisme de base qui nous aurait fait partir de Charles Martel, des Francs. En fait, on est parti de l'islam, des conquêtes islamiques, au lieu de commencer par les Francs, même si on a parlé des Francs, pour en fait montrer, expliquer les conquêtes islamiques et resituer la bataille de Poitiers dans ces conquêtes, montrer sa véritable place. Donc on fait tout ce cheminement et montrer effectivement qu'il n'y avait pas une espèce de... le choc des civilisations dont tu as parlé avec Huntington, que c'était quelque chose de plus complexe. Alors je ne vais pas reprendre tout le fil, ce serait trop long, mais en gros vous avez la première phase des conquêtes islamiques, donc après la mort du prophète, la conquête de la Syrie, de la Mésopotamie, de l'Égypte, donc ça au milieu du 8e siècle. Et petit à petit, et ça, on n'en entend jamais parler, et en particulier par les théoriciens du choc des civilisations, vous avez des crises internes à l'islam. Donc c'est les débuts, par exemple, de la scission entre les sunnites et les chiites, donc qui est d'actualité aujourd'hui, parce qu'on en parle beaucoup avec ce qui se passe en Syrie et en Irak. Donc ça commence dès la moitié du 7e siècle. Donc vous avez déjà des crises au sein de l'islam. Ça n'empêche pas les conquêtes de recommencer et d'aller jusque à la conquête d'Al-Andalus, donc de l'Espagne visigothique. Là, je vais rapidement exprès. Donc on arrive au moment où les musulmans On y reviendra peut-être si vous avez des questions sur les circonstances de ces conquêtes. Mais les musulmans arrivent, on va dire, aux frontières du monde franc et du monde de l'Occident latin. Donc, au début du 8e siècle, dans les années 711-715. Et là, ce qui est intéressant à voir, c'est là qu'on a basculé du côté franc, justement, dans le livre. C'est pour expliquer ce qui se passe de l'autre côté des Pyrénées. Et là, pareil, les tenants du choc des civilisations n'en parlent pas. Vous avez aussi un monde franc qui, comme le monde musulman, n'est pas unifié. Vous avez en particulier, déjà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les circonstances de l'arrivée au pouvoir de Charles Martel, qui est quand même un bâtard à la base, sont assez rocambolesques. Et vous avez les Francs de Charles Martel qui sont en affrontement avec les Aquitains, le duc d'Aquitaine. Donc le duc d'Aquitaine, je ne vais pas vous faire un cours de géographie, vous voyez où est l'Aquitaine, c'est entre l'Espagne musulmane et le monde franc. Donc là, l'Aquitaine, c'est fondamental à comprendre pour comprendre la bataille de Poitiers et ses conséquences. Vous avez là l'Aquitaine et Poitiers se trouve, enfin, où la bataille de Poitiers va se dérouler dans le nord de ce qu'on appelait l'Aquitaine à l'époque. Donc vous avez en gros les forces en présence. Au moment de la bataille, vous aviez l'Espagne musulmane, vous avez le duché d'Aquitaine et vous avez les Francs de Charles Martel. Okay, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'intérieur de ça, vous avez d'autres, donc pour montrer, j'insiste là-dessus, pour montrer qu'on n'est pas dans un choc des civilisations, qu'on est vraiment dans des affrontements politiques et quasiment régionaux, même locaux. Vous avez une alliance entre le duc d'Aquitaine et un berbère qui est en sédition par rapport au pouvoir musulman de Cordoue. Donc, vous voyez, alliance entre un chrétien, le duc d'Aquitaine, et un berbère musulman, déjà. Alors que quelques années auparavant, en 721, le même duc d'Aquitaine avait repoussé une attaque de musulmans à Toulouse. Bataille oubliée, pour différentes raisons. Donc déjà, alliance entre l'Aquitaine et un berbère. Ensuite, vous avez donc les Francs de Charles Martel qui étaient en guerre avec le duc d'Aquitaine. Quelques années avant la bataille de Poitiers, les deux étaient en guerre, Aquitaine contre Montfranc. Donc on voit qu'il n'y a pas d'alliance au sein du monde, on va dire du monde chrétien, pour faire vite. Quand arrive la bataille de Poitiers, en gros, pour résumer, ce n'est pas une invasion. Les sources ne parlent pas d'invasion. Les sources pas contemporaines. Déjà, il faut comprendre aussi que le nombre de sources contemporaines sont, enfin, c'est très rare. Et les sources arabes sont très très tardive et surtout très, il y a un mot pour dire l'émir est mort en martyr, etc. Les années concordent pas. Vous avez du côté des Francs, ce sont surtout des sources carolingiennes, donc ils sont pour Charles Martel, donc ils lui donnent le beau rôle. Donc ça, c'est important aussi à comprendre. Et vous avez une source qui est la plus intéressante, qui est celle qui a été écrite par un mozarabe, c'est-à-dire un chrétien vivant dans l'Espagne musulmane, et qui raconte en détail la bataille. Et qui raconte aussi ce qui s'est passé avant, et c'est pour ça que c'est intéressant. Mais on sait en fait très peu de choses sur les détails de cette bataille. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'y avait aucune trace, enfin aucune source qui parle d'invasion. Donc ça, c'est important. C'est sans doute un raid comme ils ont fait avant, comme ils ont fait après, les musulmans, pour aller piller les abbayes du coin et peut-être aller jusqu'à Tours. Voilà. Donc l'émir d'Al-Andalus, donc Abdelrahman, lance un raid. Et il bat plusieurs fois le duc d'Aquitaine. Et le duc d'Aquitaine, qui était pourtant, je vous l'ai dit, en conflit auparavant avec Charles Martel, lui appelle Charles Martel à son aide parce qu'il est débordé. Et donc Charles Martel, bien content, arrive, passe la Loire, et les deux se rencontrent et s'affrontent. Alors là, pareil, le lieu de la bataille, on ne sait pas trop. Aujourd'hui, vous avez un site à Mousset, la bataille près de Châtellerault. Mais voilà, c'est aussi encore discuté par les historiens pour le lieu de la bataille. Le plus important, c'est que les Aquitains et les Francs s'allient à ce moment-là, ils battent les musulmans et l'armée musulmane reflue de l'autre côté des Pyrénées. Voilà, on en est là, c'est la bataille de Poitiers. Alors en quoi, quelle est sa place? Est-ce que c'est une bataille décisive? Alors déjà, je vous ai dit, quelques années auparavant, en 721, vous aviez eu un autre raid contre Toulouse qui avait été arrêté. Ça, c'est a disparu des sources. Pourquoi? On y verra peut-être par rapport à Charles Martel. Donc ça, c'est important. Surtout, après la bataille, les Sarrasins, ils ne s'arrêtent pas. Ils se disent, bon, par là, c'est un petit peu difficile, donc on va passer par ailleurs. Ils s'allient avec les Provençaux, autres chrétiens. Donc on a encore une alliance entre des musulmans et des chrétiens. Ils s'allient avec les Provençaux, pardon, donc des chrétiens. Et ils entrent, on leur ouvre les portes d'Avignon, par exemple, ou d'Arles. les Sarrasins arrivent là-bas. Charles Martel, qui sent encore l'opportunité, parce que déjà la bataille de Poitiers lui a permis de mettre un pied en Aquitaine, donc le duc d'Aquitaine lui est devenu redevable, donc ça c'est très important de ce côté-là. Et ben Charles Martel, il sent l'aubaine, et il intervient contre les Sarrasins et contre les Provençaux. Donc là, vous avez une autre bataille en 737, la bataille de la Berre, près de Narbonne qui était occupée par les musulmans. Et c'est encore une défaite musulmane. Vous voyez, on ne parle pas de Toulouse, on ne parle pas de la Berre, on parle toujours de Poitiers. Donc c'est ça qui était intéressant à voir, pourquoi cette bataille-là, alors qu'elle n'est pas plus décisive que les autres. Ce n'est pas une petite bataille, c'est une bataille importante, l'émir est tué, etc. Mais elle n'a pas arrêté une invasion, et elle n'a pas arrêté les raids qui ont continué les années et les décennies suivantes. Voilà, donc... Après, je vais pas continuer là-dessus, parce que dans le livre, en fait, on a continué jusqu'à Charlemagne. Alors, pourquoi jusqu'à Charlemagne ? Parce qu'on voulait vraiment, dans cette optique toujours de démonter ce discours du choc des civilisations, montrer que les conflits continuent entre les Carolingiens et les musulmans, mais les alliances aussi. Vous avez, par exemple, la bataille de Roncevaux. Dans quelles circonstances elle est faite ? C'est parce que vous avez des émirs musulmans et de Saragosse, qui sont venus demander l'aide à Charlemagne contre l'émir de Cordoue. Donc ça, on en a parlé. Il y a aussi la fameuse ambassade d'Haroun al-Rachid, le calife de Bagdad, à Charlemagne. Donc voilà, c'était pour montrer que les relations n'étaient pas que conflictuelles, mais il y avait du conflit, il ne faut pas non plus faire une légende dorée, et que c'était très complexe. Et le dernier point, et ça c'est peut-être le point le plus important, c'est la religion. Souvent, de plus en plus dans le discours d'extrême droite en particulier, on présente la bataille de Poitiers comme un affrontement de religions avec, alors c'est là je reprends parce que on a aussi réagi par rapport à ça. Tu parlais de Laurent Deutsch tout à l'heure, dans son dernier livre Hexagone, il a fait tout un chapitre sur la bataille de Poitiers qui reprend toute l'historiographie pour faire vite catholique d'extrême droite, et il présente Charles Martel comme celui derrière lequel, avec la bannière du Christ, et tous les chrétiens se regroupent derrière lui pour repousser l'envahisseur musulman. La bataille de Poitiers, dans les faits, c'est pas du tout ça. Je vous l'ai dit, c'est un affrontement politique avec des intérêts de Charles Martel pour aider le duc d'Aquitaine, mais en fait pour mettre la main sur l'Aquitaine. Les musulmans qui sont aussi divisés de leur côté, avec l'émir de Cordoue qui veut aussi pacifier les Pyrénées, etc. Donc la religion est secondaire. Évidemment, comme toujours au Moyen-Âge, quand on a gagné, c'est parce que Dieu est avec nous. Quand on a perdu, c'est parce qu'on n'a pas été bien par rapport à Dieu. Mais c'est tout. C'est pas une guerre sainte. Okay, que ce soit du côté musulman ou du côté chrétien. On n'est pas au XIe siècle, on n'est pas pendant les croisades. Donc c'était vraiment là-dessus qu'on a voulu insister. Les divisions au sein des deux espaces, musulmans et francs, et les contacts autres que guerriers qui pouvaient y avoir et qui vont durer d'ailleurs après tout, pendant les croisades, ce sera la même chose, il y aura des contacts commerciaux, diplomatiques, il n'y aura pas que du conflit. Donc c'est là-dessus dans la partie histoire qu'on a voulu insister.
Ouais. Encore une fois, pour ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas, si vous avez des questions, on peut commencer maintenant, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez nous interrompre. Oui. Non. Non, d'accord, vous êtes des timides. Alors, oui, ah, si, madame. Allez-y, peut-être, il y a un micro baladeur.
Est-ce que cette idée de bataille chrétien contre musulman, ça n'a pas commencé dès les croisades, en fait ?
Alors, justement, alors, donc, est-ce que l'idée de la vision donc, du bataille, est-ce que je ne sais pas si tout le monde a entendu, tout le monde a entendu, non ? Donc, est-ce que l'idée d'affrontement religieux pour Poitiers a été développé au moment des croisades. Et ben c'est très intéressant parce que on pourrait penser en effet qu'au moment des croisades, donc à la fin du XIe siècle, les croisés vont mobiliser le souvenir de la bataille de Poitiers pour dire vous avez vu, une fois on a été attaqué par des musulmans et donc cette fois on vient se venger quelque part. Eh bien on a regardé les sources éditées sur les croisades parce que les sources des croisés, les chroniques des croisades ont été quasiment toutes éditées. Eh bien pas une fois la bataille de Poitiers n'est citée. Pas une fois. Hein, c'est quelque chose qui est complètement oublié au moment des croisades. Hein. C'est quelque chose dont ils sont contre-fiches. Hein. Ça ne les regarde pas. Il faut bien comprendre qu'on est à un moment complètement différent. Hein. Au 8e siècle, il n'y a pas en Occident de concept de croisade. L'idée de guerre sainte même est répugnante pour les chrétiens à l'époque. Hein, d'accord, il n'y aura pas un religieux qui va défendre l'idée de guerre sainte au 8e siècle. Alors qu'au 11e siècle, oui. D'accord. Et ça se fait pas sans mal, hein, pour le coup. Hein. Et du côté de l'islam, c'est pareil. Hein, la notion de djihad militaire se développe, alors tu me corriges parce que c'est Christophe le spécialiste, se développe réellement 12e siècle, 13e siècle, et même un petit peu avant, mais c'est surtout en réaction par rapport aux croisades que ça se développe.
Voilà, j'en profite pour, par rapport à la guerre sainte, effectivement, du côté de l'islam, le facteur religieux est important, il ne faut pas le nier non plus. Mais on ne peut pas parler de djihad en tant que tel. Ce qu'on appelle le djihad, la notion de djihad est codifiée dans le droit musulman au plus tôt à la fin du 8e siècle et surtout en réaction, parce que c'est au moment, en fait, c'est ça qui est intéressant, au moment où l'empire islamique stabilise un peu ses frontières, donc au milieu du 8e siècle, là, l'islam commence, alors déjà, je vous l'ai dit, à des divisions en son sein, mais depuis le milieu du 7e siècle, mais commence à se retrouver en situation défensive, et en particulier par rapport à l'Empire byzantin. Parce que la première vraie défaite des musulmans, c'est face à Constantinople en 717. Donc vous voyez, c'est avant Poitiers. Et donc là, à partir de ce moment-là, les juristes, les oulémas musulmans, commencent à faire des traités de djihad où le concept de guerre sainte défensive est vraiment réglementé. Avant, on ne peut pas parler de djihad en tant que tel. Et après, évidemment, avec les croisades, ça va encore plus se développer. Et quelqu'un comme Saladin va vraiment se baser sur des traités de djihad pour riposter aux croisades.
Ouais, je précise même que, par exemple, les islamistes aujourd'hui, que ce soit les gens de Daesh ou même les frères musulmans au début du XXe siècle, vont se baser sur les textes. Par contre, j'ai oublié le nom parce que là, ça me sort de l'esprit, mais vont se baser sur un théoricien du djihad qui écrit, lui, au XIIIe siècle. Hein, et il écrit par rapport à... Ibn Tamir, merci Christophe. Et il lui réagit par rapport à l'invasion mongole qui prend Bagdad, c'est la chute de Bagdad en 1258. Et là, c'est une grande catastrophe pour l'islam parce que c'est la première fois que la capitale de l'empire islamique chute, hein, et tombe aux mains d'infidèles. Donc là, vous voyez, encore une fois, ces concepts-là, c'est bien tardif et ça n'existe pas à l'époque de Poitiers. Il y a un autre truc aussi, là, par contre, sur lequel je voulais insister par rapport au 8e siècle. On a cette idée, même qui est développée un peu partout, hein, de penser qu'en effet, depuis la Mecque, hein, les premiers musulmans avaient une espèce de plan, déjà, hein, de plan de conquête du monde. Hein. Et bien, en fait, quand on connaît un petit peu l'histoire de l'époque, on s'aperçoit que c'est souvent par pur hasard que l'islam avance, hein, ou l'empire islamique avance. Alors, pour Constantinople, en 717, là, clairement, c'était prévu. Hein, ils sont à côté. La capitale, à l'époque, c'est Damas. Ils prévoient clairement d'attaquer Constantinople parce que là, les Byzantins commencent à leur casser les pieds depuis quasiment un siècle, donc ils veulent en finir. Mais par contre, le fait, par exemple, que des troupes musulmanes arrivent dans la péninsule ibérique, hein, donc en Espagne actuelle, c'est un hasard. Hein. C'est une opportunité parce que vous avez des princes visigoths, hein, parce qu'à l'époque, l'aristocratie, c'est des visigoths, se disputent entre eux et l'un d'entre eux appelle à son aide des mercenaires musulmans. Et là, évidemment, ils s'aperçoivent qu'en fin de compte, en arrivant, qu'il y a une belle opportunité à se faire, d'autant plus que les populations, qui sont aussi des populations chrétiennes, commencent à en avoir un peu marre de l'aristocratie visigothique. Voilà. Donc vous voyez, encore une fois, il ne faut pas croire, la vision binaire qui voudrait qu'il y ait des pauvres chrétiens qui soient attaqués par des ordres de musulmans avec un couteau entre les dents, eh bien, ça ne fonctionne pas, en l'occurrence. Hein. C'est une vue de l'esprit, c'est un pur fantasme. C'est un pur fantasme. Une autre question ? Allez-y, en tant qu'on... Ouais, là-bas. Oui, alors, à partir de quand le mythe, le mythe du fait que ça serait que Poitiers serait une espèce de choc entre l'Orient et l'Occident ? Eh bien, en fait, il y a vraiment une personne centrale dans la création de ce mythe, hein, une personne qui est centrale, c'est Chateaubriand. Chateaubriand, qui est un auteur donc très connu, un auteur romantique du fin 18e, début 19e siècle. Et lui, il écrit notamment dans un livre qui est central à l'époque, très, très important, qui s'appelle « Le génie du christianisme », qui est publié en 1802. Il développe cette idée que, et d'ailleurs c'est un des premiers à le dire, que en fait, la bataille de Poitiers était une invasion général de l'Occident, hein, chrétien, par l'Orient, et que en fait, les croisés eux-mêmes se seraient vengés quelque part de cette invasion-là quelques siècles après. Alors, pour comprendre ce fait-là, il faut comprendre le contexte dans lequel écrit Chateaubriand. Chateaubriand, en fait, réagit par rapport à d'autres auteurs, et notamment par rapport aux auteurs des Lumières, que ce soit Voltaire ou un auteur moins connu qui s'appelle Boulainvilliers. Parce qu'en effet, les auteurs de la Lumière, eux, ont une vision complètement négative, pour le coup, un, des croisades, et deux, ils ont une vision extrêmement positive de l'islam, et notamment de Mahomet. Hein. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, pour quelqu'un comme Voltaire, et là, pour le coup, il faut relire, mais
réellement relire et pas juste citer deux trois phrases comme ça. Il faut relire les textes de l'époque de Voltaire. Et en fait, quand on lit les textes de Voltaire ou de Boulainvilliers, qui sont même qui ont été écrits un peu avant, eh bien, ils sont littéralement fascinés par le personnage de Mahomet et par l'islam. Pourquoi ? Parce que pour eux, la religion catholique est une religion qui oppresse, d'accord, hein, avec un clergé extrêmement oppressant. On est dans la France du XVIIIe siècle, donc évidemment, c'est un peu le cas. Et par contre, pour eux, l'islam où il n'y a pas de clergé, hein, où quelque part, il y a le comment le alors ils ont une vision extrêmement idéalisée de l'islam. Hein, attention. Hein. Oui, c'est en plus à cette époque-là, comme le dit Christophe, qu'apparaît un peu le mythe d'Al-Andalus, donc qui serait en fait une espèce de territoire extrêmement tolérant. Eh bien, pour eux, d'accord, l'islam, justement, vu que l'islam autorise sur son territoire des gens d'autres religions, pour eux, pour Voltaire, l'islam est une religion tolérante. Donc Voltaire, dans l'essai sur les mœurs qu'il publiait en 1755, va dire si Abderrahmane, donc le chef de l'armée qui est opposé à Charles Martel, si Abderrahmane avait gagné, la France serait devenue mahométane. Alors évidemment, quand on lit juste cette phrase-là, évidemment, on se dit « Ah, ça y est, Voltaire aussi est un peu du côté de Chateaubriand, voilà, et dit « Voilà, en fait, la France, ça aurait été une catastrophe. » Mais il faut lire la suite du texte. Dans la suite du texte, en effet, Voltaire, il ne le dit pas clairement, mais en fait, on lit clairement entre les lignes, Voltaire regrette ce fait-là. Il dit « C'est bien dommage, en l'occurrence, que Abderrahmane ait perdu, parce que la France et l'Europe, se seraient économisés les siècles d'obscurité du Moyen-Âge. » Encore une fois, Voltaire réagit comme un philosophe des Lumières. Et donc, vous avez cette idée-là qui est développée par les Lumières. Et Chateaubriand, lui, quelque part, il reprend cette idée-là. Parce qu'en fait, l'inventeur du concept de ce choc de civilisation, c'est Voltaire et Boulainvilliers, ce sont les deux. Hein. Il reprend cette idée-là, et vous le retrouvez d'ailleurs, c'est en passant, vous le retrouvez y compris chez Montesquieu. Il reprend donc Chateaubriand cette idée-là, mais il la transforme. Hein. Et lui, il dit, en fin de compte, heureusement que Charles Martel a gagné, parce que Charles Martel, c'était le champion du christianisme. Là-dessus, vous allez voir, on va pouvoir revenir dessus, parce que Charles Martel et l'Église, c'est tout un poème, d'accord ? Donc Charles Martel, c'était un champion du christianisme, et heureusement qu'il a gagné, parce que, comme ça, là, encore une fois, Chateaubriand, il défend sa boutique, hein, là, l'Europe a pu connaître la grande période du Moyen-Âge, pour Chateaubriand, le Moyen-Âge, c'est une grande période de lumière. Hein. Pour lui, c'est là, en fait, où Chateaubriand, il est très malin, il déplace le discours des Lumières, non pas sur la raison, mais sur le christianisme et sur le Moyen-Âge. Pour lui, hein, c'est pas la raison qui amène les Lumières à l'humanité, c'est le christianisme. Voilà. Donc en fait, Chateaubriand transforme le discours de Voltaire. Et c'est pour ça qu'il écrit ça à ce moment-là. Et ce discours-là va être constamment repris. Mais au début du XIXe siècle, il est un peu repris. Il y a toute une critique par rapport à ça. Il y a beaucoup de discours qui sont écrits par rapport à ça. D'ailleurs, un grand historien comme Michelet lui-même va réagir à Chateaubriand en disant « Non mais attendez, Charles Martel, en fait, c'était pas du tout un chrétien, c'était un païen. » Ce qui est faux aussi, hein, voilà. Mais encore une fois, Michelet, qui lui était anticlérical, va dire l'inverse de Chateaubriand. Et puis après, tout au long du XIXe siècle, en fait, cette histoire-là, c'est complètement oublié parce que on en parle un petit peu de Charles Martel dans les livres d'histoire. On en parle. Hein. Faut pas dire qu'on s'était ignoré. Mais ça reste quelque chose d'extrêmement secondaire. Quand on regarde dans l'ensemble de la société, hein, pour voir si une figure historique ou un événement est important, il faut regarder la production d'œuvres d'art par rapport à cette personne-là. Il faut regarder la production de livres. Il faut regarder la production de sculptures. Hein, il faut regarder la production de romans. Eh bien, sur Charles Martel, en France, en gros, jusque dans les années 80-90, aucun roman, rien. Alors que sur des personnages comme Jeanne d'Arc, sur Saint-Louis, sur Philippe le Bel, hein, sur Louis XI, hein, il y en a des tas. Sur Charles Martel, aucun roman, aucune bande dessinée, aucun film, aucune statue. Baladez-vous en France, des statues de du Guesclin, de Saint-Louis, de Jeanne d'Arc, vous allez en avoir par paquet, d'accord, hein. Il y a seulement, en deux siècles, deux peintures qui ont été produites sur Charles Martel, dont une qui a été faite en 1834 à la demande de Louis-Philippe, mais évidemment dans un contexte très particulier. C'est la peinture qui est exposée à Versailles, la peinture de Van Steuben, d'accord. Et là, on est dans le contexte de la conquête de l'Algérie. Donc là, il y a tout un discours par rapport au colonialisme qui est développé, d'accord. Mais c'est uniquement dans ce contexte-là que cette peinture est faite. Sinon, plus aucune peinture sur Charles Martel. Alors qu'encore une fois, quand on compare avec d'autres figures historiques médiévales, comme, encore une fois, Jeanne d'Arc, Philippe le Bel, Saint-Louis, là, par contre, vous en avez par wagon entier, des peintures. Donc, vous voyez, encore une fois, cette mémoire-là de Charles Martel, elle est très secondaire. Il y a une espèce d'excitation fin 18e, début 19e siècle, mais ça reste quelque chose de très secondaire. Et en fin de compte, hein, le vrai moment d'excitation mémorielle par rapport à Charles Martel, eh bien, il commence, il est entamé un peu après la guerre d'Algérie, avec évidemment l'arrivée en France d'une immigration venue de pays maghrébins ou majoritairement musulmanes, d'accord ? Et vraiment, ça s'excite réellement à partir de la fin des années 90 au sein de l'extrême droite. Et dans un contexte, et c'est très important, de conflits internes à l'extrême droite. Parce que quand Bruno Maigret, en 2000-2001, c'est le premier homme politique à faire un discours sur le site de la bataille. Le premier en deux siècles. Hein. Le premier. Hein. Il arrive, il fait un discours où il reprend clairement la notion de choc de civilisation. Il le dit lui-même dans son discours. Il y a un choc de civilisation éternel qui existe entre l'Orient et l'Occident, entre l'islam et le christianisme. Et nous sommes en train de revivre un nouveau choc. Voilà. Eh bien, il s'inscrit donc dans le discours d'Huntington, hein, qui date de 93. Mais pourquoi il fait ça ? Eh bien, c'est tout simple. On est deux ans après la scission entre le Front National et le MNR. Le Front National est quelque part propriétaire, entre guillemets, mais c'est quasiment le cas, en tout cas politiquement, est propriétaire de la figure de Jeanne d'Arc. Donc le MNR ne peut pas se revendiquer de la figure de Jeanne d'Arc. Donc il leur faut une figure de remplacement. Et bien là, paf, ils ont trouvé Charles Martel. Voilà. Donc il faut comprendre ça. Tout comme en 2012, vous avez l'occupation de la mosquée, enfin du chantier de la mosquée de Poitiers par les identitaires, hein, qui sont, pour simplifier, la droite du Front National, et encore, je simplifie, c'est un peu bête de dire ça, je ne devrais pas dire ça, bon, on va dire que c'est un autre courant de l'extrême droite. Eh bien, pourquoi les identitaires font ça ? Parce que depuis deux ans, ils sont en perte de vitesse. Le FN et Marine Le Pen viennent de faire 17% ou 18% au présidentiel, et là, eux, ils ont besoin d'exister. Donc, ils font une opération coup de poing pour faire parler d'eux, d'accord ? En ayant un discours hyper radical que n'a pas le Front National. Donc vous voyez encore une fois cet accaparement, ce développement d'un discours politique et mémoriel autour de la figure de Charles Martel s'explique aussi par une histoire très courte et par des conflits internes à l'extrême droite. Voilà. Et pas du tout par le fait que Charles Martel, comme eux, enfin comme l'extrême droite n'arrête pas de le dire, ou même des gens de droite, ferait partie d'une espèce de mémoire commune ou collective des Français. Ce qui encore une fois veut rien dire. Ce qui ne veut rien dire, et en fait dans ce livre on prouve que c'est faux. C'est faux.
Juste une petite remarque pour... Juste pour prolonger après, je vais séparer, mais justement, c'est ce qui est intéressant par rapport au contexte actuel, c'est effectivement ce que je disais tout à l'heure et ce que tu as dit, que le FN, pour l'instant, ne se revendique pas ouvertement Charles Martel, mais ceux qui défendent la figure de Charles Martel, notamment dans les programmes d'histoire, sont pas classés officiellement à l'extrême droite. Des gens comme le Valeur Actuelle, le journal dont on parlait tout à l'heure, ou des gens comme Dimitri Casali, qui a une obsession des programmes scolaires, c'est son fonds de commerce depuis quelques années, ou Jean Sévilla, ces gens-là, donc des gens qu'on voit régulièrement à la télévision, ou qu'on voit dans le Figaro, etc. Eux, ils défendent la figure de Charles Martel et disent c'est pas normal qu'il ne soit plus appris par les jeunes écoliers, etc. Le FN est encore relativement timide là-dessus.
Oui, tu disais que c'était récent, mais il n'empêche que, bon, dans les années 60 à l'école, c'était systématiquement Charles Martel a bloqué les Arabes Poitiers, quoi.
Oui, alors juste... le problème, c'est... Enfin, on a pas développé sur les programmes des années après les années 60, mais même dans les années 90, on voyait dans les manuels Charles Martel a arrêté les Arabes Poitiers. Mais on voyait que ça. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Enfin, c'est pas ce qui... C'est tout, quoi. C'était dans... dans un tout un peu un magma, on savait pas trop dans quelles circonstances. Et...
Juste, je réponds par rapport à ça parce qu'en effet, bon, là c'est un des, c'est quelque chose qu'on aurait aimé creuser, mais en même temps on voulait sortir un livre intelligible parce qu'on voulait pas sortir une thèse. Et en fait, en gros, il aurait fallu qu'on fasse des statistiques sur l'ensemble des manuels qui ont été publiés en France depuis le 19e siècle. On l'a pas fait, et des programmes, on l'a pas fait, mais on a pris des époques témoins. Par exemple, fin 19e, début 20e siècle, les deux plus gros manuels de cours élémentaires et de cours moyens ne citent pas Charles Martel. Le Lavis, d'accord, et le Gauthier Deschamps. C'est les manuels les plus diffusés. C'est quand même étonnant. Le livre qu'une historienne qui s'appelle Mona Ozouf a appelé le petit livre rouge de la République, hein, ça s'appelle Le Tour de France par deux enfants, hein, qui était un livre qui s'est diffusé à plus de 12 millions d'exemplaires. Hein. Vous imaginez, c'est phénoménal. Donc c'est un livre qui prenait deux, enfin ça raconte l'histoire de deux enfants qui font le tour de la France et qui découvrent à la fois la géographie et l'histoire de la France, hein, et en plus c'est deux enfants qui viennent d'Alsace-Lorraine, donc il y a tout un truc par rapport à la revanche et tout. Bon, il voit plein de figures historiques, hein, et il parle de plein de figures historiques dans ce bouquin-là, mais parle de Charles Martel. C'est étonnant aussi. On a pris maintenant une autre époque témoin, c'est les années 50. Hein. C'est vraiment, on a pris une quinzaine de manuels de ce moment-là, et évidemment parmi les plus diffusés. Alors que dans la plupart des manuels de cette époque-là, Saint-Louis, Jeanne d'Arc, évidemment, Louis XI, Bayard, Duguesclin sont cités, la moitié des manuels ne parlent pas de Charles Martel. C'est étonnant aussi quand même. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui me disent « Oui, on en parlait quand j'étais jeune, on en parlait. » Oui, mais c'est pas parce qu'on en parlait qu'on s'était développé, que c'était quelque chose qui était mis en avant. On a pu en parler, certains profs ont pu en parler, certains profs ont pu le mettre en avant, mais ce n'était pas, à la différence d'autres figures historiques, ce n'était pas systématique. Et pas de, c'est pas une figure majeure du roman, ce qu'on appelle le roman national scolaire français. Voilà. Là encore une fois, moi j'insiste beaucoup là-dessus. Et autre truc, par contre, quand on regarde bien dans les manuels où on parle de Charles Martel, parce qu'évidemment, on a mis des exemples de manuels où on parle de Charles Martel. Ce qui est intéressant, c'est que, à la différence de Chateaubriand ou de ce qui est dit aujourd'hui par l'extrême droite, les manuels ne donnent qu'à la bataille de Poitiers qu'une dimension nationale. Charles Martel n'a pas sauvé le monde chrétien, n'a pas sauvé l'Occident, mais a sauvé la France. Et ce n'est pas la même chose. On voit qu'il y a quand même une nuance d'importance. Parce que ce n'est qu'une... Cette bataille n'a qu'une dimension nationale. Et quelque part, Charles Martel, comme souvent dans le roman national scolaire, Charles Martel, c'est un peu quelque part la réincarnation de héros, d'accord, comme Vercingétorix, comme Clovis. Hein. Et d'ailleurs, quand on voit bien les illustrations d'époque, hein, en fin de compte, Vercingétorix, Clovis, Charles Martel, ils ont tous la même tête. Hein. C'est des types avec des cheveux longs et moustachus. Hein. Concrètement, voilà, avec une espèce de gros casque et avec une grosse hache. Voilà. C'est ça, c'est vraiment strictement la même chose. Donc, quelque part, dans ce roman national scolaire, Charles Martel, c'est une espèce de redite hein, qui va être après redit à nouveau avec Philippe Auguste qui gagne à Bouvines en 1214. Voilà. Donc, en fin de compte, c'est vraiment pas une place centrale. Hein. Et quand on compare même le nombre de pages qui sont consacrées à Charles Martel dans les manuels par rapport à d'autres personnages, là, c'est pareil. C'est vraiment ridicule. Hein. C'est parfois 2-3 lignes. Hein. Et dernière chose, là, on ne l'a pas mis dans le bouquin parce qu'on n'avait pas la place, mais il y a une source qui a été étudiée par une historienne, dont j'ai oublié le nom, c'est un peu... Je suis désolé. Elle est tombée sur un corpus de copies du certificat d'études, en gros, qui allait de 1920 à 1930. Il y avait 2 ou 3 000 copies hein, donc, du certif, hein, où on posait à des futurs certifiés donc, des questions d'histoire. Hein. C'était des questions où ils devaient répondre par oui, non. Puis, enfin, voilà, donc. Et en fin de compte, sur ces 3 000 copies, jamais, d'accord, Charles Martel n'est cité. On ne pose jamais à des futurs certifiés la question de savoir qui a gagné la bataille de Poitiers, par exemple. Jamais. Donc, vous voyez, encore une fois, c'est tout ça nous fait dire que Charles Martel n'était pas ignoré, mais c'était un personnage extrêmement secondaire de l'enseignement. Et on pourrait multiplier les exemples comme ça. Le fait est, une dernière chose, qu'il y a eu depuis la fin des années 40, vous avez plusieurs sondages qui ont été faits, notamment par le magazine L'Histoire, pour savoir, en gros, quel est le personnage historique préféré des Français. Et il y a eu 4 sondages hein, depuis 49. Hein. Et jamais dans ces sondages-là, alors on va citer Jeanne d'Arc, Napoléon, Charles de Gaulle, Clémenceau, Jaurès, voilà, mais jamais Charles Martel n'est cité. Ça ne veut pas dire que les gens ne le connaissent pas, mais ça veut dire qu'encore une fois, quand on leur dit quel est votre personnage de l'histoire de France préféré, eh bien, ils ne pensent pas du tout à Charles Martel. Maintenant, peut-être que dans 15 ans, ça va peut-être changer, on n'en sait rien, ça.
Vous ne pensez pas, excusez-moi, mais je n'étais pas là au début, malheureusement, vous l'avez peut-être dit à ce moment-là, je ne sais pas, que Charles Martel était avant tout un personnage parisien et donc plus lié à l'Île-de-France ou au nord de la France et qui s'est retrouvé par hasard, entre guillemets, à Poitiers. Je veux dire qu'il n'a jamais voulu, à ma connaissance, briguer une importance politique nationale pour la France. Il s'est retrouvé à aider, donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'Aquitaine, mais c'était pas, je pense pas que c'était dans son envie première.
Ouais. Alors là, c'est alors déjà, il y a un, dans votre question, je peux me permettre, il y a un problème de terme en fait. Vous, ça, vous employez le terme national. National à l'époque, vous oubliez. Hein. Le concept de nation n'existe pas au 8e siècle. Ça, vous, voilà. Alors évidemment, pour nous, c'est plus simple de dire voilà, il y a une nation, mais non, mais oublier, ça n'est pas, c'est juste pas possible. Hein. Charles Martel, c'est un Austrasien, donc il vient d'Austrasie. Donc, pour simplifier, c'est un territoire entre la vallée de la Meuse et la vallée du Rhin, et le centre des terres de sa famille. C'est entre la vallée de entre ces deux vallées-là. Et donc, en l'occurrence, lui, il est maire du palais. Donc, en gros, pour simplifier, premier ministre du roi d'Austrasie. Il veut mettre d'abord la main sur la Neustrie, qui est en fait le royaume entre la vallée de la Somme et la vallée de la Seine, ou la vallée de la Loire. La Neustrie. Il finit par mettre la main sur la Neustrie. Et puis après, évidemment, vu que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'appétit, d'accord, hein, il va mettre la main sur l'Aquitaine et sur, en tout cas, il va commencer à mettre la main sur l'Aquitaine et sur la Provence. Hein. Et là, c'est très compliqué parce qu'en effet, vous n'avez pas, même si tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle le Regnum Francorum, donc le royaume des Francs et pas de France, d'accord, hein, ça n'a pas d'unité politique, d'accord, forte comme ça pourra avoir au XIVe siècle, par exemple, même au XIVe siècle. Bon. Voilà. Donc vous voyez, encore une fois, c'est assez complexe, mais en effet, c'est quelqu'un qui vient clairement du Nord, d'accord, et qui essaie d'accaparer des terres sur le Sud. Et avec lui, dans ses bagages, il amène toute une aristocratie qui est aussi avide de terres et de titres vers le sud. Attention néanmoins, parce qu'on a pu le lire aussi par ailleurs, et c'est des gens du 19e siècle le disaient aussi, ce n'est pas une colonisation hein, de gens du nord qui viennent du sud non plus. Hein, c'est pas non plus ça. Hein, mais voilà. Mais évidemment, vous avez cet aspect-là qui est très important.
Non, mais juste pour prolonger, de toute façon, on peut se baser que sur les sources. On n'a pas de source de Charles Martel qui dit je veux faire ça. Mais les sources sont quand même assez claires et les faits sont clairs. Il a quand même, à chaque fois qu'il avait une opportunité de pousser vers le sud et d'éventuellement réunifier le Regnum Francorum, il l'a fait. Hein. Donc Poitiers, c'était une opportunité. Comme je vous l'ai dit, il a profité du besoin d'aide d'Aquitaine pour s'incruster. Même si l'Aquitaine rentre vraiment dans le giron carolingien plutôt sous Charlemagne ou Louis le Pieux. Et pareil pour la Provence, enfin Bourgogne-Provence, c'est parce que voilà, les Provençaux sont alliés avec les Sarrasins et il a dit bah non, ça va pas le faire et il en a profité pour intervenir et mettre les pieds en Provence. Donc il y a quand même au moins eu un opportunisme.
Bonjour, vous m'entendez?
C'est bon. Ouais, un peu, ouais.
Je m'entends pas bien. Je ouais. m'entends pas bien. Mais bon. Oui. Alors, je crois, là, juste pour répondre au monsieur, c'est parce que je voulais dire au départ, mais d'après ce que j'en sais, que la famille des Pipinides, donc la dynastie en fait Charles Martel, bah, après qui donnera Charlemagne, hein, était originaire de Liège, je crois. Donc, ouais. Si c'était un roman national, on pourrait dire que Charles Martel, c'est un roman national belge. On pourrait dire ouais. presque. Enfin, en faisant.
Il y a beaucoup fois. Plus de travaux.
Ouais.
Oui. Oui.
Sinon, ce que je voulais dire, excusez-moi, alors moi j'aurais pu me dire aussi que Charles Martel, quand les romans d'histoire, enfin quand les livres d'histoire plutôt citent Charles Martel, ça peut être un autre mythe à la limite, qui est celle de la. Bon, là c'est vraiment les rois feignants finissants, et lui c'est un maire du palais, hein, et donc c'est justement l'incarnation de la future dynastie des Carolingiens, donc il va avoir son apogée avec Charlemagne, Pépin le Bref, Charlemagne. Et vraiment la décadence des mérovingiens, puisqu'il est quand même paradoxal qu'une bataille soit gagnée, non pas par un roi, en général une bataille c'est un souverain qui la gagne. Austerlitz c'est Napoléon qui a la gagné, c'est pas le général Bidule. Donc est-ce que c'est pas plutôt aussi le mythe de Poitiers, celui de la montée de la décadence mérovingienne, quoi. C'est-à-dire une autre
alors,
image d'Épinal.
Je vais répéter la question pour tout le monde. Donc, monsieur disait que est-ce que ce mythe de Poitiers s'expliquerait aussi par le fait qu'en effet Charles Martel à l'époque n'était pas roi, était maire du palais, et puis qu'en fait c'est son fils qui va devenir roi et il impose en fait sa dynastie. En fait, enfin, il essaie d'imposer sa dynastie. Et en effet, c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que le livre s'appelle Charles Martel et la bataille de Poitiers, parce qu'en fait, il faut distinguer deux choses. C'est que pendant très longtemps, jusqu'au XVIIIe siècle, ce qui va interroger les chroniqueurs par rapport au règne de Charles Martel, c'est pas la bataille de Poitiers, c'est pas quelque chose qui est au centre de l'idée, enfin, des commentaires par rapport à la vie de Charles Martel. Ce qui est au centre, c'est vraiment la question de l'usurpation. Parce qu'évidemment, quand vous avez des gens qui parlent de la vie de Charles Martel au Moyen Âge, notamment des chroniqueurs royaux, ils sont un peu embêtés, parce que Charles Martel, c'est quand même quelqu'un qui a usurpé le trône et qui a mis son fils sur le trône de quelqu'un d'autre. Alors évidemment, quand on est chroniqueur royal, c'est un peu complexe, hein, c'est un peu touchy. Voilà. Et en fait, ça va continuer, cette idée-là va se développer jusqu'au XVIIIe siècle. C'est au point que même les philosophes des Lumières comme Montesquieu vont dire, ils vont même jusqu'à dire que, en fait, Charles Martel s'est servi du prétexte, et le terme est employé textuellement, enfin, texto, hein, du prétexte de l'attaque sarrasine, d'accord, pour appuyer son pouvoir. Et au XVIIIe siècle, beaucoup de chroniqueurs vont dire qu'en fin de compte, Charles Martel, c'est une espèce de coup d'état militaire. Hein. En fin de compte, il a justifié des invasions, entre guillemets, d'accord, pour appuyer son pouvoir. Alors, c'est en partie vrai, c'est en partie faux, mais eux vont largement insister là-dessus. Pourquoi ? Parce que Boulainvilliers, dont j'ai parlé tout à l'heure, lui, c'est un philosophe des Lumières, mais c'est un philosophe des Lumières qui est aristocrate. Hein. C'est quelqu'un qui est partisan du retour à un régime aristocratique. Et pour lui, les rois, en fait, y compris Louis XIV, Louis XV et tout, sont des usurpateurs et des despotes. Et lui, il veut, en fait, quelque part, le retour à un régime aristocratique où les aristocrates seraient libres de faire ce qu'ils voudraient. Eh bien, Boulainvilliers, au début du XVIIIe siècle, dit qu'en fait, ce régime despotique des rois a pour origine le règne de Charles Martel, qui se serait servi, donc, de la bataille de Poitiers comme prétexte. Donc, en effet, vous avez un discours comme ça qui se développe. Mais c'est intéressant parce que vous voyez qu'encore une fois, même pour des gens comme ça, la bataille de Poitiers, en fin de compte, pour eux, c'est pas un grand moment de l'histoire de France ou de l'histoire du monde, mais c'est quelque chose, c'est vraiment le prétexte d'une espèce d'usurpateur. Voilà. Alors encore une fois, c'est pas du tout comme ça que c'est passé, hein. C'est beaucoup plus complexe, mais on voit, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit que quelque part, chaque époque interprète ou chaque auteur interprète cette bataille en fonction de ses intérêts, hein, et en fonction de son discours.
Et justement, je rebondis là-dessus pour aller vraiment dans l'époque carolingienne. Si vous regardez les sources carolingiennes, qui sont évidemment par définition pro- Charles Martel, elle valorise sa politique, mais la bataille, si on prend ce qu'on appelle le continuateur de Frédéguer ou le pseudo Frédéguer, une source du 8e siècle, il parle un peu de Poitiers, mais très peu. Et là, il en parle pour, en fait, plus attaquer le duc d'Aquitaine, eux, en disant que c'était un traître, puisqu'il s'était allié avec les Sarrasins avant. Mais après, la bataille dont parle cette grande source carolingienne, qui est vraiment importante, surtout par rapport à Charles Martel, il parle plutôt de la reprise, enfin, ou de la prise plutôt d'Avignon et de la bataille de la Berre. Il y a beaucoup plus de lignes dans le continuateur de Frédéguer sur la bataille de la Berre et sur le moment où Charles et son fils prennent Avignon contre les Sarrasins que sur la bataille de Poitiers. Donc ça, c'est assez intéressant aussi.
Ouais. Et d'ailleurs, c'est sur cette bataille-là qu'en fait, quand on lit bien le continuateur de Frédéguer, il emploie des métaphores bibliques par rapport à Jéricho, voilà. Et en fait, quand on connaît bien les sources carolingiennes, en fait, quand un roi est comparé à un roi biblique, hein, un roi de l'Ancien Testament, c'est à ce moment-là que c'est important. Donc, en l'occurrence, pour le continuateur de Frédéguer, c'est vraiment la bataille d'Avignon qui est importante et pas la bataille de Poitiers. Bon, enfin, c'est des détails comme ça, mais en même temps, c'est intéressant de voir que, voilà, c'est par rapport, en effet, aux Mérovingiens. Il y avait une autre question, je crois, je ne sais plus. Ouais. Ouais, avec le micro, ça va être sinon, ça, comme ça, tout le monde va pouvoir.
C'était juste pour ajouter que le fait de dire que Charles Martel a arrêté les Arabes et que cette bataille, c'était un choc de civilisation Occident-Orient, c'est un raccourci. Parce qu'en fait, si on regarde les troupes musulmanes qui ont conquis l'Espagne, c'est des troupes qui sont venues du Maghreb, donc ce n'était pas spécialement des Arabes, c'était plutôt des Berbères. Et donc, ils sont ralliés avec des Espagnols qui sont rentrés dans l'islam. Et donc, ce sont ces gens-là qui ont fait la bataille de Poitiers. Donc, ça n'a rien à voir avec les Arabes historiques qui sont les gens d'Arabie. Et donc ce sont simplement des musulmans, et ces musulmans-là, alors, ne représentent pas du tout l'islam oriental, et donc il n'y a pas de choc de civilisation, parce que le Abderrahman dont on parlait, c'était un représentant des Omayyades. Pour faire vite, hein, après le prophète dans la civilisation musulmane, il y avait deux dynasties importantes, les Omayyades et les Abbasides. Les Omayyades sont venus avant, et les Abbasides justement se sont alliés à des Ottomans plutôt chrétiens pour prendre le pouvoir. Et donc, quand ils ont pris le pouvoir, ils ont massacré les Omayyades au dernier. Et le fameux Abderrahman, donc la légende dit qu'il a fui par un miracle. Donc, il a traversé l'Euphrate à la nage. Il est parti au Maghreb. Il est allé en Espagne. Et là, il a rassemblé les gens autour de lui parce que c'était un émir. Et il a créé donc l'Andalousie, qui était Omayyade, qui n'avait rien à voir avec l'empire musulman abbasside au Moyen-Orient. Donc, ce n'est absolument pas une bataille au nom de tout l'islam, mais au nom de... Donc du choc de civilisation. Voilà.
Alors, excusez-moi, je vais répondre parce que, en fait, La bataille de Poitiers, c'est 732-733, et l'arrivée, la chute des Omeyyades en faveur des Abbassides, c'est en 750-751. Vous confondez deux Abderrahman, en fait. Le problème, c'est qu'il y a énormément d'Abderrahman. Même nous, pour faire l'index, on a eu des soucis. Il y a Abderrahman, l'émir, en 732, on est encore sous le califat Omeyyade de Damas. Donc l'Espagne musulmane et le Maghreb dépendent officiellement, même s'ils sont de plus en plus indépendants, ils font un peu ce qu'ils veulent, dépendent du califat de Damas. Ok. Quand Abderrahman El-Ghafiqi, c'est son surnom, il est émir de Cordoue au nom du calife de Damas. Quand il fait ses raids, il les fait au nom du calife de Damas. Ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est que ses prédécesseurs, Moussa ibn Nusayr, par exemple, ou Tarek ibn Ziyad, les conquérants de l'Andalus, ils ont conquis l'Andalus, on l'a dit un petit peu rapidement tout à l'heure, un peu par opportunisme, voilà, parce qu'ils ont vu qu'il y avait de la place et que c'était très divisé. Mais le calife de Damas, il leur a dit « Ok, c'est bien », mais il les a fait revenir et ils ont disparu. C'est-à-dire qu'il s'en est débarrassé parce que ça lui faisait de l'ombre. L'émir de Cordoue, donc Abderrahman El-Ghafiqi, celui qui est tué à Poitiers, c'est un émir, c'est un wali, on appelle ça, un gouverneur. Parmi d'autres, il y avait avant Al-Sam, par exemple, celui qui est mort à Toulouse en 721, puis on a eu d'autres après. Mais l'Abderrahman dont vous parlez, celui qui a échappé aux purges abbassides, donc le dernier Omeyyade, effectivement, il arrivait après, en fait, et il a fondé l'émirat Omeyyade d'Al-Andalus après la bataille de Poitiers, et c'est même quelqu'un qui aura des relations avec Charlemagne. Donc c'est après, en fait, et le califat plus tard au Xe siècle, ce sera le califat Omeyyade.
Mais soit dit en passant, ça me permet, c'est une question qui est intéressante, ça me permet aussi de parler aussi de la mémoire de la bataille de Poitiers dans le monde arabe et le monde musulman en général. Et en fin de compte, quand on creuse un petit peu, on est très surpris parce que c'est pas tout comme on pourrait s'imaginer que cette bataille-là, ça pourrait être quelque chose qui est très, dont on parle beaucoup dans le monde arabe au XXe siècle, par exemple. Parce qu'il y a évidemment en pleine décolonisation, on aurait pu un peu revendiquer ou se revendiquer de cette bataille comme l'avancée ultime de l'islam en Occident. Et ben c'est pas le cas. Le mythe politique arabe central médiéval dans les années 60, dont va d'ailleurs se réclamer Nasser, c'est Saladin. Hein, Saladin, Nasser va même commander à Youssef Chahine un film sur Saladin. D'ailleurs, c'est un film assez marrant parce qu'on voit que c'est Saladin le mec gentil, alors que c'est Richard Coeur de Lion qui est un gros salaud dans ce film. C'est assez marrant à regarder avec les yeux d'aujourd'hui. Et c'est juste après la guerre, c'est juste après la guerre de, enfin après l'affaire du golfe de Suez, hein, donc du canal de Suez. Donc c'est extrêmement intéressant. Mais Charles Martel, en fin de compte, on en parle peu. Mais néanmoins, même quasiment pas. Néanmoins, le seul roman contemporain qui a été écrit sur la bataille de Poitiers, sur Charles Martel, a été écrit a été publié en Égypte au début du XXe siècle par Zurji Zaidan, que aujourd'hui quasiment plus personne ne connaît, mais qui est un peu l'Alexandre Dumas des lettres arabes au début du XXe siècle, hein, était énormément lu. Et c'est très intéressant parce que c'est un arabe chrétien, hein, qui vient de Syrie ou du Liban actuel. Enfin bon, en tout cas, il vient de cette région-là. C'est un arabe chrétien et lui, il a une vision extrêmement intéressante de la bataille de Poitiers parce que pour lui, alors ça raconte la bataille de Poitiers vue sous l'angle des Arabes, d'accord. Et en fait, c'est un prince arabe qui s'appelle Ani, qui est le lieutenant d'Abderrahman, qui part en éclaireur quelque part avant l'armée, et il trouve sur son chemin des alliés, notamment des princesses gauloises, dit le texte, hein, princesses gauloises, et des moines. Et les moines disent « Ah mais heureusement que vous les musulmans vous êtes là, parce que vous les arabes, pardon, vous êtes là, parce que vous les arabes vous êtes civilisés comme nous les gaulois, alors qu'en fait les francs c'est des gros barbares, et d'ailleurs vous aussi vous avez des barbares, c'est les berbères. Hein, » donc c'est assez marrant, vous avez un discours presque de choc de civilisation, hein, mais qui est complètement inversé, parce que là, vous avez une espèce d'alliance entre les peuples dissivilisés pour Zaidan, hein, parce que évidemment, quand il dit les Gaulois et les Arabes peuvent collaborer, hein, là, il est en train de dire, bah, vous avez vu, en fin de compte, dans
dans le monde islamique, les Arabes chrétiens et les Arabes musulmans peuvent collaborer, d'accord, hein, et quelque part, les barbares, c'est les Francs. Et c'est intéressant parce que Zaïdan a certainement lu des textes, notamment de Montesquieu, s'est certainement inspiré de textes de Montesquieu pour avoir cette espèce de vision un peu bizarroïde. Mais c'est très intéressant parce que là, on n'est pas du tout dans un... Quand on lit ce roman-là, qui est très marrant à lire, hein, qui se lit vraiment très rapidement, qui était publié récemment en français d'ailleurs, eh bien, c'est pas du tout un roman où on va décrire un choc de civilisation, hein. En tout cas entre islam et chrétienté, mais vraiment un conflit entre civilisés, donc arabes et gaulois d'un côté, hein, qui s'allient entre eux, qui peuvent se comprendre, et barbares, les francs d'un côté et les berbères. D'ailleurs, dit le texte, si l'armée d'Abderrahman a perdu à Poitiers, c'est la faute des berbères qui sont des gros pillards et qui ont lâché l'armée au dernier moment. Donc c'est très drôle à lire avec les yeux d'aujourd'hui. Mais vous voyez, dans le monde arabe, c'est quasiment une des rares fois où on va parler de la bataille de Poitiers. Récemment, alors là, ils nous ont fait un coup pas très sympa, mais bon, enfin, il y a eu un texte de Daesh qui a cité la bataille de Poitiers, hein, qui était publié sur Internet en mars 2015. Et c'est intéressant parce qu'en fin de compte, ils citent la bataille de Poitiers dans une longue litanie de batailles. Donc, c'est pas quelque chose qui détaille, ils vont pas le mettre en avant non plus. Hein. Ils citent plein de batailles des premiers temps de l'islam, et ils disent, voilà, alors je sais plus quelle bataille ils citent, hein, mais, et puis un moment ils citent juste Poitiers, voilà, ils disent il faut qu'on retrouve cette époque là mais ils ne la mettent pas en avant, hein. Alors le problème, c'est qu'on a pas pu, évidemment, parce que c'est vraiment, on était en train de boucler le livre, hein, quand c'est sorti, donc là c'était trop tard pour le mettre dedans. Et de toute façon, on a essayé de regarder, enfin moi j'essaie de regarder un petit peu, et Christophe, on a essayé un peu de regarder, de voir si c'était quelque chose de récurrent chez Daesh de citer la bataille de Poitiers. Mais a priori, c'est pas le cas. C'est quelque chose qui vient juste de sortir. Je pense pas que ça soit très récurrent. Par contre, ce qui est clair, c'est que du côté en France, de l'extrême droite française, mais aussi de l'extrême droite américaine, là, la bataille de Poitiers est de plus en plus citée. Hein, et au niveau de l'extrême droite européenne aussi. Hein. Là, c'est en train de devenir une espèce de lieu commun, d'accord, de l'extrême droite, on va dire occidentale au sens général. Et à chaque fois, vous avez même des auteurs américains qui parlent maintenant très largement de la bataille de Poitiers en disant c'est un moment extrêmement important où en fait l'avancée de l'islam a été arrêtée définitivement. Voilà. Mais encore une fois, c'est une vue de l'esprit.
Juste une précision par rapport à Daesh, qui est intéressant, c'est que c'est quand même une bataille, c'est reconnu, une défaite. C'est reconnu dans les sources arabes du Moyen Âge. Donc ils sont toutes plus tardives, encore plus que les sources chrétiennes. La plus récente, c'est à plus d'un siècle après la bataille, mais ils disent que c'est, ouais, ils avouent que c'est une défaite, leur émir est mort en martyr, etc. Donc c'est assez étonnant que Daesh cite une défaite. En général, ils vont plutôt citer des victoires, ce qui est logique. Juste, je fais un tout petit incise par rapport à ce que vous avez dit, par rapport aux Arabes, aux Berbères et ce que tu disais là. Ça, c'est important aussi de voir par rapport à l'époque. Effectivement, les chefs, en gros, les chefs de l'armée, la plupart étaient Arabes. La majorité des troupes étaient Berbères. Et avec sans doute des contingents, on n'a pas de précision, des contingents locaux, visigoths, etc. Et ce qu'il faut bien comprendre, j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais vous aviez aussi des tensions entre Arabes et Berbères, et toute l'histoire d'Al-Andalus, c'est des tensions entre Arabes et Berbères, face en plus à la Reconquista qui démarre après. Donc vous avez vraiment ça. Et dans la chronique dont j'ai parlé tout à l'heure, la chronique mozarabe, ce qui est assez intéressant, et ce qui fait dire à certains historiens qu'il y a quand même une sorte de choc de civilisation, et là, c'est là qu'il faut faire attention dans les termes. Vous avez la chronique mozarabe dont j'ai parlé tout à l'heure, dont l'auteur était un chrétien sous domination musulmane en Espagne, donc a été écrit une vingtaine d'années après la bataille de Poitiers. Lui, il emploie le terme « arabes et europensens », donc les Arabes et les Européens. Donc ça pose question qu'au milieu du 8e siècle, il y a un auteur chrétien vivant en Espagne, sans doute proche de la cour de l'émir, qui emploie le terme arabes et surtout européen pour parler des Francs. Donc voilà, ça pose question. Mais par contre, c'est pas du religieux. Pour lui, c'est pas, il parle pas de religion, il parle pas d'affrontement de religion.
Moi, j'ai juste une remarque. J'ai pas assisté à toute la conférence, mais je pense que j'ai quand même écouté une bonne partie. C'est pour la compréhension des choses. En fait, on parle de Charles Martel, on parle du monde musulman, on parle de l'Occident. Et à plusieurs reprises, vous avez cité Daesh. Je comprends pas ce que Daesh vient faire dans l'exposé. Je sais pas, ça brouille les pistes. On s'intéresse à ce que dit Daesh comme si c'était important du point de vue de la compréhension des choses ou de l'histoire que Daesh cite Charles Martel ou quoi, on s'en fiche à la limite.
Ah non, Daesh, non, je suis justement.
Daesh ne représente rien du monde musulman.
C'est, oui, non, mais, pas... non, mais je dis pas que ça représente.
Et le fait qu'à plusieurs reprises vous avez parlé de Daesh et des frères musulmans aussi, vous avez parlé des frères musulmans à un moment donné. Je sais pas, j'ai l'impression que ça aide pas la compréhension des choses en fait. Voilà. C'est mon point de vue et je voulais savoir pourquoi vous parlez de Daesh.
Oui. Non mais juste, on en a parlé juste parce qu'en effet, là, récemment, donc en mars 2015, ils ont cité une fois la bataille de Poitiers. Donc après, c'est quand même intéressant de voir qu'un groupe islamiste se réclame de la bataille de Poitiers, tout comme c'est intéressant de voir, et à partir de quand, l'extrême droite en France se réclame de la bataille de Poitiers. C'est tout, c'est juste une question d'historiciser la mémoire, de voir comment se créent et quand se créent des mémoires par rapport à ça. Les frères musulmans, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est uniquement, je crois que c'était uniquement pour dire que c'était par rapport, ils s'inspiraient d'un auteur du XIIIe siècle. Ils ont, à ma connaissance, et bon, malheureusement, là, on n'est pas des fins connaisseurs pour le coup des textes des frères musulmans, les frères musulmans ne parlent pas de la bataille de Poitiers. Un de leurs grands modèles, c'est Saladin, encore une fois. Donc là, ça n'a rien à voir.
Oui, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de dire qui est représentatif de quoi, c'est d'étudier, d'historiciser, c'est ça, de savoir pourquoi tel ou tel groupe politique utilise telle ou telle figure et dans quel contexte. On a parlé de l'extrême droite, on dit bah pourquoi l'extrême droite utilise aujourd'hui Charles Martel et pas avant. Et là, on dit bah ça nous a étonné que Daesh, parle de la bataille de Poitiers. Donc voilà, et pourquoi ils en parlent. Ce qui nous intéresse en tant qu'historien, c'est de savoir pourquoi ils en parlent, pourquoi maintenant. Ça n'a sans doute rien d'un hasard. Si on inverse le truc, c'est, on parlait du choc de civilisation du côté américain, c'est par hasard si Huntington, dont on a parlé tout à l'heure, qui n'est pas représentatif non plus, mais qui a eu énormément d'influence après sur la politique américaine, et donc on voit des conséquences aujourd'hui, que lui ait parlé de la bataille de Poitiers et qu'il l'ait mise dans une sorte... Bah en fait, c'est comme si Daesh répondait à Huntington, en fait. Huntington, il a cité une suite de batailles qui représenterait, selon lui, l'affrontement entre un Occident fantasmé et un Islam fantasmé de sa part, et Poitiers, ce serait une bataille importante comme la bataille de Lépante en 1571, comme le siège de Vienne, etc. Et ben l'émir de Daesh, ou je sais pas comment on l'appelle, mais l'homme de Daesh qui a cité la bataille de Poitiers, il se situe un peu dans, c'est comme s'il était de l'autre côté de la barrière en fait, et qu'il dit ben voilà, nous aussi on a nos batailles qui représentent un peu notre vision du monde. Voilà, c'est juste ça, hein, c'est, on étudie les textes, on étudie les discours et on essaie de les expliquer et de les historiciser.
Ouais. C'est ça que je trouve que c'est très intéressant. Tout comme l'extrême droite française dit rejeter l'Amérique, mais en fait, ils collent leur discours sur Huntington, sur des années d'Huntington, eh bien, c'est intéressant de voir que Daesh, en l'occurrence, loin de reprendre des textes anciens de l'islam, en fin de compte, ils s'inscrivent totalement dans un contexte contemporain et ils s'inscrivent totalement, ils reprennent presque mot pour mot les analyses d'Huntington, en fin de compte. Hein. Donc, en fait, ils sont parfaitement influencés par ça. Donc, ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Et ça, c'est très nouveau. Hein. Le choc islam-chrétienté, l'idée que ce choc-là existe et qu'il est structurant dans l'histoire, c'est une idée qui existait déjà au XIXe siècle avec Chateaubriand, mais qui a été un peu oubliée et qui maintenant refait floresse. Et là, encore une fois, il faut historiciser ça. Il faut comprendre pourquoi ça réapparaît. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important. Et là-dedans, dans ce discours-là, la bataille de Poitiers joue un rôle justificateur central. Parce que pour eux, c'est vraiment un des événements qui va justifier, qui va dire, vous voyez, en fait, en fin de compte, vous avez bien un choc Orient-Occident. Islam-chrétienté. Et là, pour le coup, c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça qu'on essaie de refaire l'histoire de la bataille de Poitiers. Et c'est pour ça qu'on le refait maintenant. Et c'est pour ça que ça devient urgent. Là-dessus, ouais, je voulais juste... Non, mais oui.
Non, un petit point d'ordre. Les livres partiront dans un quart d'heure. Donc, on peut continuer le débat. Mais si vous voulez acheter le livre, c'est tout de suite.
Si vous voulez le faire dédicacer.
Mais cela dit, comme...
On fait des dessins, attention. Non, mais ce qu'on va faire, c'est si vous... J'ai pas de souci. Enfin, si vous voulez continuer à poser des questions, il n'y a pas de problème. Mais nous, on va... S'il y a des gens qui veulent le dédicacer. Mais sinon, au pire, venez poser des questions ici. Il n'y a pas de souci.
Voilà,
en plus,
peut,
ça sera...
Voilà. Continuer le débat ici, effectivement.
Ouais, si, à moins qu'il y ait une dernière question, là, comme ça. Non ? Ouais. Charles Martel et la religion chrétienne, bah là, il faudrait du temps pour répondre, mais je vais être très rapide.
Charles Martel, en l'occurrence, on est tombé sur des textes assez marrants et sur des images assez marrantes, mais dès le 9e siècle, vous avez une légende noire qui est développée par des ecclésiastiques sur Charles Martel, qui dit que Charles Martel aurait brûlé en enfer parce qu'il aurait accaparé des biens d'église. Et ça, vous avez c'est des textes qui apparaissent au début du 9e siècle et dont on retrouve encore des traces et des évocations au 19e siècle. Hein, vous voyez, donc c'est extrêmement continu. Et quelque part, la mémoire la plus longue sur la bataille de Poitiers et sur Charles Martel, c'est cette mémoire-là, et qui est une mémoire complètement oubliée aujourd'hui. Et ça, c'est extrêmement intéressant, parce que ce sont notamment des gens au 9e siècle, c'est pas n'importe qui, c'est Hincmar de Reims. Hincmar, qui archevêque de Reims, qui développe cette mémoire-là en disant, en fin de compte, Charles Martel brûle en enfer parce qu'il a volé des biens d'église pour financer son armée pour Poitiers, notamment. Hein. Et en l'occurrence, c'est très intéressant parce que Hincmar, il fait ça évidemment pour quelque part avertir les arrière-petits-fils de Charles Martel, qui sont en fait les héritiers de Charlemagne, hein, ou les petits-fils de Charlemagne, qui eux-mêmes accaparent les biens de l'Église, pour leur dire attention, ne faites pas ça parce que vous avez vu votre arrière-arrière-grand-père, il brûle en enfer. Hein. Donc c'est là pour le coup, c'est pour des raisons extrêmement politiques. Bon, j'ai pas le temps de développer, mais en tout cas, on en parle pas mal dans le livre et c'est assez marrant parce que vous avez parfois des images, des enluminures du XIVe siècle où vous avez Charles Martel en train de cramer en enfer. Hein. Donc c'est assez étonnant. Et c'est des enluminures dans des manuscrits qui ont été commandés par le roi de France. Donc c'est pas rien, hein, pour le coup. Hein. Donc c'est extrêmement intéressant que voir même dans des manuscrits royaux, hein, commandé par exemple par Philippe le Bel ou par son fils Louis X le Hutin, eh bien en l'occurrence, vous avez Charles Martel en train de brûler en enfer. Et c'est pas rien pour le coup.
Oui, dans le prolongement, aujourd'hui, Charles Martel, et surtout par l'extrême droite, est présenté comme un champion de l'Église. Je parlais tout à l'heure du bouquin aussi de Laurent Deutsch où il était derrière la bannière du Christ, alors que les rapports entre Charles Martel et l'Église ont été très nuancés. Donc comme disait William, après des siècles après, donc il a une légende noire, mais même à l'époque, le champion de l'Église de l'époque niveau politique, c'était le duc d'Aquitaine dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que il avait repoussé les Sarrasins en 721. Mais après la bataille de Poitiers, le pape se dit l'homme fort de la région, c'est Charles Martel, donc on va plutôt se rapprocher de lui. Et on a mais c'est pas pour le reconnaître en tant que champion de l'Église au sens religieux du terme, mais c'est au sens politique. Et le pape à l'époque, ce qu'il faut voir, c'est qu'il a des problèmes avec les Lombards. Et il demande à Charles Martel, est-ce que tu peux venir. Il lui écrit une lettre en 739, donc quelques années après la bataille de Poitiers. Il lui dit, est-ce que tu peux venir nous aider, toi qui nous as déjà sauvés contre les Lombards. Et Charles Martel fait la sourde oreille, parce qu'en fait, il est plutôt proche des Lombards qu'il aide contre les Provençaux. Donc vous voyez, champion de l'Église, c'est relatif. Donc il faut attendre plutôt Pépin le Bref et après Charlemagne avec ses rapports aussi ambigus avec l'Église pour voir ça. Donc voilà, Charles Martel et l'Église, c'est une relation très compliquée.
Et de toute façon, si le pape il dit que Charles Martel est sauveur de la chrétienté, c'est une espèce de tentative diplomatique pour passer de la brosse à Charles Martel pour dire tu as vu, tu es très beau, maintenant viens m'aider contre les Lombards. Il faut aussi, enfin, c'est vraiment, faut toujours comprendre le contexte de l'époque, le contexte de production des textes, hein, c'est extrêmement important. Hein. Voilà. Donc là, clairement, vous avez une tentative de rapprochement politique entre le pape et les Pupinides, qui va pas marcher sur Charles Martel, mais qui marchera avec Pépin et avec Charlemagne. Et là, c'est pour ça que Charlemagne, d'ailleurs, sera élu, enfin, nommé empereur par le pape. Hein, voilà. Bah écoutez, oui, une dernière question, et puis ceux qui veulent, enfin, je sais pas si c'est signé, il n'y a pas de souci, on pouvait vous approcher aussi, ça fait un peu bizarre, mais c'est pas grave. Hein, c'est...
Ouais. À un moment, au début, tu parlais de la bataille de 21, et tu disais
721,
oui, enfin, du même siècle, quoi. Et tu disais que ça n'avait pas du tout été instrumentalisé, qu'il y avait des bonnes raisons, mais tu les as pas dites.
Oui, c'est vrai, je suis allé vite là-dessus. En fait, c'est pas vraiment des bonnes raisons, c'est une histoire encore de sources. On a parlé des sources pour la bataille de Poitiers, donc les sources du côté France, c'était des sources plutôt carolingiennes et quelques autres sources chrétiennes, mais la bataille de Toulouse, donc où je répète, vous avez le duc d'Aquitaine qui repousse une attaque des Sarrasins, en fait elle est citée que par ce qu'on appelle le Liber Pontificalis, donc c'est une source papale. Les sources carolingiennes, évidemment, on n'en parle pas puisque c'est le duc d'Aquitaine qui est contre les Carolingiens. Les sources aquitaines de l'époque sont très difficiles à trouver et il y en a pas, on n'en trouve pas sur cette bataille-là. Et il y a juste un moine lombard qui s'appelle Paul Diacre qui en parle, mais lui c'est très flou parce que il est du 8e siècle aussi, parce que il mélange un peu, il met dans la même lignée Toulouse et la bataille de Poitiers. Il dit, en gros, en 721, les Sarrasins, justement, c'est le premier à parler de femmes et d'enfants qui viennent avec une pseudo-invasion, on va dire. Ils arrivent, ils sont arrêtés à Toulouse et après, ils sont repoussés. Enfin, c'est très flou, mais c'est le seul qui en parle. Les sources carolingiennes n'en parlent pas, puisque c'est l'Aquitaine, et donc c'est l'ennemi des Carolingiens. Et il n'y a que le Liber Pontificalis qui l'a dit, voilà, le duc d'Aquitaine est un champion de l'Église. Il a fait 375 000 morts du côté sarrasin. Donc évidemment, c'est n'importe quoi, mais c'est toujours les chiffres qui sont de l'époque sont toujours exagérés. Et ce qui est intéressant, c'est que les sources postérieures, qu'elles soient carolingiennes ou autres, chrétiennes, reprennent ce chiffre, mais pour la bataille de Poitiers. Donc on retrouve les mêmes chiffres, sauf que ils mélangent les deux. Et vous avez un moine aussi, Bède le Vénérable, donc plutôt en Angleterre. Lui, il parle... Alors, pendant longtemps, les historiens ont pensé qu'il parlait de la bataille de Poitiers, mais vous avez un historien qui s'appelle John Tolan, qui est dans son ouvrage que je vous conseille au passage, Les Sarrasins, dit en fait que sans doute que Bède le Vénérable, quand il parle d'une bataille entre les Francs et les Sarrasins, en fait, il parlait de la bataille de Toulouse et pas de la bataille de Poitiers. Mais ça, c'est une interprétation des sources. Parce que voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il est contemporain de ces faits-là, Bède le Vénérable. Mais il aurait entendu parler sans doute de la bataille de Toulouse et peut-être de la bataille de Poitiers. Et peut-être que pour lui, c'était la même bataille. Voilà, mais c'est très flou tout ça.
Et je finis là-dessus, hein, après on arrête de vous embêter, mais c'est d'autant plus flou que par-dessus le marché, il faut comprendre un autre truc, c'est que, encore une fois, c'est là où on voit que le travail d'historien, ça ne s'improvise pas, on ne peut pas lire des textes comme ça au premier degré, parce qu'il faut bien comprendre à chaque fois le sens des mots. Quand vous avez dans une source médiévale le terme « sarrasin », eh ben on peut se dire « ah ben voilà, c'est les Arabes, c'est les musulmans ». Eh bien non, et là pour le coup, John Tolan, c'est pas le premier à le dire, mais c'est le premier à l'avoir rappelé. Mais dès le 19e siècle, vous avez des littéraires qui le disent, en l'occurrence, des spécialistes de littérature médiévale. Le terme « sarrasin » désigne en fin de compte tous les païens. Hein. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pour les chrétiens, pour les auteurs chrétiens, pour les témoins chrétiens, quand ils voient une armée musulmane, même pendant les croisades, ils ne savent pas qui ils ont en face d'eux. Ils ne comprennent pas, ils n'envisagent pas les musulmans comme une religion monothéiste qui serait en gros, comme on le sait aujourd'hui, de la branche abrahamique. Hein. Donc qui serait quelque part un peu de la même famille au sens large, d'accord, que le judaïsme ou le christianisme. Pour eux, les sarrasins, ce sont des païens, hein, qui prient plusieurs dieux, même des intellectuels très 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 doués et très informés comme Pierre le Vénérable qui est abbé de Cluny au XIIe siècle, qui est extrêmement intelligent, qui se fait traduire des textes issus du Coran, même lui n'est pas certain, d'accord, que les Sarrasins soient une religion monothéiste. Hein. Donc en fin de compte, pour eux, les Sarrasins, c'est des païens au même titre que les Vikings. Et c'est pour ça que dans certaines sources, vous allez trouver des descriptions, on va dire, par exemple, vous avez un texte du XVe siècle qui s'appelle l'histoire Charles Martel, hein, qui est un texte littéraire, qui vous décrit en fait les exploits d'un jeune chevalier. Alors là, parce que c'est marrant, c'est Charles Martel, c'est une espèce de vieux grigou extrêmement aigri, c'est le salaud de l'histoire, et il y a le jeune chevalier qui vient sauver en fait les armées franques pendant une bataille contre les Sarrasins. Et évidemment, quelqu'un qui lit mal le texte va dire « Ah ben voilà, c'est à nouveau une allusion à Poitiers ». Eh bien non, en fait, quand on lit bien le texte, c'est l'auteur de l'époque qui confond tout. Il confond en fait la bataille de Poitiers et la bataille des champs cataloniques de 451. Et en fait, il confond l'attaque, d'accord, d'Abderrahman avec l'attaque d'Attila en 451. Et en fait, il confond les Huns, d'accord, avec les musulmans. Et en fait, il emploie le terme sarrasin de manière extrêmement générique. Et donc, ça désigne en gros tous les païens. Vous allez voir dans un texte du XIVe siècle, Clovis, le roi franc, avant sa conversion, il est décrit comme étant un sarrasin. Donc vous voyez, c'est là où ça devient un peu complexe, en fin de compte, de lire les sources de l'époque. Il faut faire très attention, parce que même quand vous avez des descriptions de la bataille de Poitiers, en fait, on ne décrit pas la bataille de Poitiers. Voilà. Au XVIe siècle, on va même confondre la bataille de Poitiers de 732 avec la bataille de Vouillers en 507, qui voit la victoire de Clovis sur les Visigoths ariens. Ariens, donc c'est une branche du christianisme qui est éteinte aujourd'hui. Hein. Donc vous voyez, en fin de compte, à l'époque, c'est extrêmement flou, et on va même parfois mobiliser le souvenir de la bataille de Poitiers contre les Espagnols. Hein, contre les armées espagnoles à la fin du XVIe siècle, on va dire « Ah, mais c'est un peu comme, comme Charles Martel qui a arrêté les Sarrasins. Voilà, c'est pas grave, c'est les mêmes. Voilà. Ils viennent du Sud. Voilà. » Donc en fait, en fin de compte, à l'époque, c'est extrêmement flou. C'est pour ça que j'avais un autre exemple assez rigolo par rapport à ça, mais je ne le retrouve plus. Ah oui, et même du côté des Espagnols, c'est assez marrant. Des textes du... Là, c'est un truc, c'est un peu une parenthèse, mais vous avez des textes du XIVe siècle, des versions de la chanson de Roland du XIIIe siècle, qui sont écrits par des ecclésiastiques, hein, qui, en fait...
montre Charlemagne et Roland comme étant les méchants de l'histoire, et le héros de l'histoire, j'ai oublié son nom mais il est dans le bouquin, en fait c'est un héros chrétien mais qui s'allie avec des sarrasins contre Charlemagne et Roland, et c'est quand même des ecclésiastiques espagnols qui écrivent ça. Donc vous voyez, encore une fois, les gens qui vous sortent des histoires en disant « Mais vous savez, depuis la nuit des temps, il y a toujours eu un choc de civilisation entre les chrétiens et les musulmans, parce qu'il y a toujours eu des blocs extrêmement nets et tout », eh ben non, hein. C'est des gens qui ne connaissent pas les sources médiévales, qui ne connaissent pas du tout le Moyen-Âge, et il ne faut pas les écouter. Sur ce, merci beaucoup, merci pour l'accueil. Et ceux qui veulent une petite bafouille, ce sera avec grand plaisir. Merci à vous, merci.
Merci, et puis bonne fête à tous.